Notre méditation ce matin est intitulée « plus doux que le miel ». La Bible est un don de Dieu et chacun a une Bible chez lui aujourd'hui. C'est un cadeau précieux de Dieu à l'humanité pour entendre la voix de son Créateur, pour connaître la vérité et la volonté de Dieu pour sa vie, pour saisir les promesses de l'Éternel, pour marcher par la foi et pour trouver la joie dans la présence de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, une parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pourtant, il nous arrive de lire la Bible sans rien en retirer. Elle paraît fade. Certes, nous avons quelques histoires que nous aimons bien, quelques versets que nous aimons bien, mais beaucoup de croyants considèrent que la majeure partie de la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, n'est pas d'une grande utilité pour la vie quotidienne. Beaucoup considèrent que cette partie de la Bible, l'Ancien Testament, n'est pas d'une grande pertinence pour la vie d'aujourd'hui. J'aimerais ce matin que nous soyons encouragés ensemble à lire la Bible dans sa totalité, sans négliger l'Ancien Testament. J'aimerais que nous soyons encouragés à lire l'Ancien Testament en profondeur et faire comme David l'expérience que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, beaucoup d'or fin, plus douce que le miel qui coule des rayons. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 19. Pour voir la douceur de la parole de Dieu et combien elle est précieuse pour nous. Nous ne lirons pas tout le psaume, mais on peut découper ce psaume en deux parties. La première partie du verset 2 à 7, qui parle de la révélation de Dieu dans la création. La majesté de la création nous parle de la majesté encore plus grande de son Créateur. La deuxième partie, des versets 8 à 15, qui nous parle de la révélation de Dieu par sa parole. Et donc voyons ce rayon de miel et cette mine d'or qui est la parole de Dieu, dans la deuxième partie du psaume, à partir du verset 10. Alors je lis, on commencera d'ailleurs au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Plusieurs mots dans ce passage sont là pour qualifier la parole de Dieu. Alors, je vous ai dit que c'est la loi de l'Éternel, c'est le témoignage de l'Éternel, au verset 9, les ordonnances de l'Éternel, la deuxième partie du verset 9, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel qui souligne le fait que, eh bien, l'Écriture constitue un guide pour nous aider à adorer l'Éternel dans la crainte. Il nous est parlé aussi des jugements de l'Éternel. Et en même temps, dans ces versets, il nous est parlé des bienfaits de la parole pour nous. On dit, verset 8, la parole de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Et au verset 11, David dévoile sa réaction personnelle face à la parole de Dieu, la parole parfaite de Dieu, la loi parfaite de Dieu. Il fait l'éloge des statuts de Dieu. Il déclare, au verset 11, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fait. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » L'or, vous le savez, le symbole de la richesse, déjà à l'époque de David, mais aussi aujourd'hui. Il nous dit que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fait, beaucoup. Pour montrer combien cette parole est précieuse, est une richesse pour nous. Et David ajoute que, eh bien, que la parole de Dieu est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Le miel, c'était la substance la plus douce de cette époque aussi. Et certains diront, on dit aujourd'hui, quand on lit cette partie, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons, c'est du bio. Voilà, c'est pas du miel frelaté. Ça vient vraiment des rayons de miel. Voilà. C'est pas du sucre ou du glucose qui a été traficoté par les hommes. Eh bien, c'est vraiment du bio, c'est du bon, c'est du vrai. Eh bien, ça nous est donné de la part de Dieu. Vous rappelez que Canaan, c'était le pays où coule le lait, le miel. Et Dieu avait donné ce pays au peuple d'Israël. Bien, Dieu nous a donné la parole et il nous a dit que cette parole est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Aux yeux de David, donc, la parole de Dieu a une double valeur. Tout d'abord, une valeur propre, une valeur intrinsèque. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup, beaucoup d'or fait. Et ensuite, elle a aussi une valeur expérimentale. Elle n'est pas une parole qui est précieuse et qui reste là. Elle agit dans celui qui se penche dessus, qui la considère telle qu'elle est. Elle a une influence sur nous. Dans l'expérience humaine, la parole de Dieu est comme le miel. Et vous savez, si vous n'avez pas goûté le miel, vous ne savez pas comment il est doux. Mais si vous avez goûté le miel, vous savez qu'il est doux. Vous distinguez le miel d'acacia, le miel de lavande. Eh bien, la parole de Dieu est plus douce que le miel, celui qui coule des rayons. Et donc, ça nous parle de cette douceur de la parole. On s'en délecte, elle réjouit notre cœur. Quelle belle description de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, où se trouve cette mine et ce rayon de miel? Eh bien, au milieu de l'Ancien Testament. Pratiquement au milieu. On aurait pensé qu'on aurait trouvé ce verset 11 qui dit que la parole de Dieu est une richesse plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. On aurait pensé qu'on trouverait ça dans le Nouveau Testament où il est parlé de Jésus qui est la parole de vie, la lumière qui éclaire tous les hommes. Mais non, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament affirme que, enfin, ce verset affirme que l'Ancien Testament est plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et que l'Ancien Testament est plus doux que le miel qui coule des rayons. Suite à cette déclaration de David, suite à cette vérité qui est décrite ici, notre prière à chacun, je l'espère, serait « Seigneur, que l'Ancien Testament soit pour moi aussi comme l'or le plus précieux, comme le miel le plus doux. » Quand j'étais à Bordeaux, je discutais avec un frère africain qui est cardiologue. Et il aimait vanter les qualités nutritionnelles de la date. Ça, la date, vous savez, c'est ce fruit qu'on mange qui est sucré. Et il disait, sous forme de boutade, il me disait, « Tu sais Marc, la date, c'est vraiment très bon. Une date, ça vaut 3 beefsteaks. » Eh bien, voyez, la parole de Dieu, elle est plus précieuse que beaucoup d'or, que beaucoup d'or fin. Elle est plus douce que le miel. Quelqu'un a écrit au sujet des psalmistes que c'était des personnes qui en savaient beaucoup moins que nous sur Dieu et qui pourtant aimaient l'Éternel plus que nous. C'était des personnes qui évoquaient le salut de Dieu bien avant que les temps fussent accomplis et que la croix ne dévoile le plan de Dieu. Et cependant, les psalmistes, les gens de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas autant de lumière que nous avons avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces personnes ont réussi à saisir l'évangile du salut par la grâce, l'évangile de la rédemption par la substitution, l'évangile de la foi. L'Ancien Testament est donc une mine d'or et un rayon de miel. La Bible nous le précise dans le psaume 19, mais dans le psaume aussi 119, dans beaucoup d'endroits de l'Ancien Testament, la parole de Dieu est précieuse et vitale. J'aimerais aborder maintenant avec vous, le problème que nous rencontrons quand nous lisons l'Ancien Testament. Alors, un des premiers contacts, pour certains d'entre vous, avec l'Ancien Testament, remonte à l'école du dimanche, à la classe du dimanche, quand vous avez découvert de belles histoires que vous avez beaucoup appréciées. Mais, quand on devient plus grand et qu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a beaucoup de guerres. Il y a des noms bizarres qu'on n'arrive pas à bien prononcer, des listes de noms qui ne sont pas faciles à prononcer, des cérémonies étranges, des paroles dures, des coutumes qui sont tombées dans l'oubli, qui étaient pratiquées à l'époque de l'Ancien Testament, mais qui ne nous semblent pas avoir cours aujourd'hui. Je me rappelle qu'un prédicateur qui était venu ici nous confessait qu'il prenait le temps de lire toutes les généalogies. Et si vous n'avez pas encore ouvert votre Bible souvent dans l'Ancien Testament, vous pouvez prendre les 9 chapitres des Chroniques Et vous voyez que ce sont des généalogies longues avec des mots compliqués. On a du mal à prononcer ça. On se dit, mais quel intérêt il y a à lire tout ça? Eh bien, il nous disait, eh bien, qu'il prenait son temps pour lire les généalogies. Et sa femme lui disait, mais tu es le seul qui lit ces trucs-là. Mais il disait, c'est dans la parole de Dieu. Je prends le temps de la lire. Ça me prend le temps, mais je la lis. Oui, le chrétien d'aujourd'hui se sent déconnecté en face de l'Ancien Testament. Et une bonne partie de l'Ancien Testament, c'est trois quarts de la Bible. Donc toute cette partie de la parole de Dieu ne semble pas avoir de valeur ni de but concret pour nous aujourd'hui. Toutes ces cérémonies, toutes ces lois détaillées qui sont consignées dans l'Ancien Testament ne semblent pas pertinentes ou applicables à la vie chrétienne de notre époque. Considérons par exemple Exode chapitre 25 à 31. Vous le lirez si vous voulez chez vous cet après-midi. Qu'est-ce qu'on trouve dans Exode? Eh bien, on trouve dans Exode Moïse qui donne des instructions détaillées pour la construction du tabernacle et pour la confection des vêtements des sacrificateurs. Mais ces instructions qu'il a données des chapitres 25 à 31, il va les répéter des chapitres 35 à 40 lorsque le tabernacle sera construit et que les sacrificateurs seront entrés en fonction. Pourquoi prendre la peine de répéter ça? Pourquoi prendre la peine de lire tous ces détails alors qu'aujourd'hui nous n'avons pas de tabernacle, nous n'avons pas non plus de sacrificateur? On voit aussi dans Nombre 7, on voit que les 12 chefs de tribu viennent présenter des présents pour la dédicace du temple. Et au lieu de dire une bonne fois pour toutes, au lieu comme ils disent une bonne fois pour toutes, tous les chefs ont présenté les mêmes choses, et bien il va répéter pour chaque chef, il a donné ça et ça et ça, et lisez-le, vous verrez que ça paraît redondant, ça paraît fatigant, et ça paraît une longue lecture fastidieuse, sans grand intérêt pour la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et on n'a pas envie de fournir des efforts de lecture alors que l'autel n'existe plus et qu'un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, ça ne nous parle pas beaucoup. Vous connaissez, qu'est-ce que c'est ça? Un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire? On ne trouve pas ça aujourd'hui. Donc ça nous paraît pas utile. Et je ne parle pas des sacrifices dans le Lévitique ou toutes ces lois qui appartiennent à une culture qui a disparu depuis longtemps. Il était par exemple interdit de se raser le coin de la barbe. Est-ce que vous êtes vigilant à ça, de ne pas vous raser le coin de la barbe? Il est aussi dit qu'on ne pouvait pas porter de vêtements tissés de deux espèces de fil. Est-ce qu'on se préoccupe de ça aujourd'hui? Pas du tout. Donc lire le Lévitique, ça nous paraît long et difficile. Et cela n'en semble pas apporter beaucoup de bénédictions spirituelles. Pourquoi alors prendre la peine de lire l'Ancien Testament? Ces quelques exemples illustrent bien le problème majeur que nous rencontrons quand nous lisons l'Ancien Testament. Des lectures longues, difficiles, sans grand intérêt pour nous, apparemment. Alors on préfère lire des textes plus connus et familiers, surtout ceux du Nouveau Testament. Mais en procédant de cette manière, on laisse de côté les trois quarts de la Bible et on se prive de grandes bénédictions. On a lu dans le psaume 19 que David déclarait déjà que l'Ancien Testament est plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin et d'une douceur plus délicate que celle qui coule des rayons de miel. Salomon, quant à lui, dans Proverbes, je vous invite à tourner juste votre Bible, dans Proverbes chapitre 2, pour voir ce que Salomon dit de la parole. Proverbes chapitre 2, donc on tourne juste les pages, et on lit dans Proverbes chapitre 2 à partir du verset 1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si... » Et le verset 4 nous intéresse. « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. » Voici, Salomon compare la parole de Dieu à de l'argent et à des trésors cachés. Nous savons tous qu'on ne trouve pas l'argent comme ça dans la rue. On ne trouve pas ça par terre. Les trésors cachés, on ne les trouve pas non plus. Pour trouver l'argent, l'or, il faut creuser. Comme des trésors aussi. Or, la plupart des lecteurs de l'Ancien Testament n'ont pas envie de creuser. Ils lisent et s'ils ne comprennent pas, allez, on passe. On ne prend pas le temps d'approfondir, de chercher. Le psaume 2, le proverbe 2, par contre, affirme que si nous cherchons la vérité comme l'argent, ça veut dire que c'est précieux pour nous. C'est pourquoi nous cherchons la vérité comme l'argent. Si nous la poursuivons comme un trésor, poursuivre, c'est-à-dire ne pas s'arrêter en chemin, ne pas se décourager, eh bien, nous ne serons pas déçus, parce que Dieu lui-même nous promet de nous donner la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Rendez-vous bien compte que même l'effort de creuser la parole, c'est positif et c'est une source de joie, car nous creusons dans la parole même de Dieu. Tous les livres de la parole de Dieu, de la Genèse à Malachie et ensuite de Matthieu à l'Apocalypse, révèlent une vérité éternelle et immuable. Gardons notre Bible ouverte et n'abandonnons pas avant d'avoir découvert la vérité. Lisons l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 29 verset 13 nous dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Regardons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, tournons un peu notre Bible, hein. Ézéchiel chapitre 2, et voyons comment l'Ancien Testament parle de l'Ancien Testament. Donc, on va dans Ézéchiel, chapitre 2. Donc, c'est Dieu qui envoie Ézéchiel en mission, et on va commencer au verset 8. Ézéchiel, chapitre 2, verset 8. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Elle le déploya devant moi. Il était écrit au-dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va. » Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Voilà, ces quelques versets nous montrent que la parole de Dieu forme un tout. Au verset 10, dans la première partie, il déploya devant moi, il était écrit en dedans et au dehors. On n'a rien à rajouter dans la parole du Dieu. C'est déjà écrit en dedans et en dehors, on ne peut rien y ajouter. On voit aussi que le contenu de la parole est clair. Dans la suite du verset 10, il était écrit en dedans et en dehors, et à la fin, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Une parole qui est compréhensible par les hommes, compréhensible par ses lecteurs. On voit aussi que cette parole a la capacité de nourrir. Au verset 8, et nous lisons « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » On voit ça aussi au chapitre 3, au verset 1, il me dit « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va par la maison d'Israël. » Et aussi au verset 3, dans sa première partie, il me dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Bien sûr, la parole de Dieu. Et on voit aussi que la parole de Dieu est savoureuse. Au verset 3, toujours dans la dernière partie, « Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » On voit aussi Jérémie qui reprend cette douceur de la parole. Jérémie chapitre 15, et juste un peu avant, vous tournez les pages de votre Bible. Jérémie chapitre 15, verset 16, où on peut voir écrit J'ai recueilli tes paroles, Jérémie 15, 16, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà une parole qui est douce, qui est savoureuse. Et on voit aussi qu'elle est efficace. On retourne dans Ézéchiel, au chapitre 2 toujours, au verset 7. On voit que c'est Dieu n'a pas donné à Ézéchiel des armes, il lui a donné simplement la parole. Voilà. Et il dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent. Ézéchiel chapitre 2, verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Voilà. La parole de Dieu est à faire entendre. Ésaïe, on voit aussi dans Ésaïe, on revient un peu en avant. Ésaïe 55, verset 11. Combien la parole de Dieu est efficace. Ésaïe 55. Verset 11, et on commencera au verset 10, Ésaïe 55, verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et vous voyez, tout ça, c'est l'Ancien Testament dont il est parlé. Donc, lisons la parole de Dieu. Jérémie, on peut tourner encore. Jérémie 23, 29. Jérémie 23. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Voici la puissance de la parole de Dieu. Alors, quel est en fin de compte notre problème en face de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui peut résoudre ce problème? Eh bien, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu, et non pas la foi dans nos sentiments. La foi est la solution du problème que nous rencontrons face à la parole de Dieu, et plutôt la solution au problème entre la doctrine et l'expérience. Parce que des fois, on dit, mais ah, je n'expérimente pas ce que dit la parole, alors c'est elle qui n'est pas vraie ou n'est pas efficace. Non, non, non. La foi croit que la doctrine est vraie. Et la suite vient. Et prenons 2 Timothée. 2 Timothée qui éclaircit cette proposition. 2 Timothée, les versets qui nous intéressent, ce sont les versets 14 à 17, mais j'aimerais qu'on lise un peu le contexte. Donc, 2 Timothée, chapitre 3. Vous voulez parler des difficultés des derniers jours. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vie. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, cette première partie nous parle d'un temps d'apostasie, nous parle de la difficulté des derniers jours, où les hommes sont... Le péché prend une ampleur telle, et même dans les églises, il y a des faux docteurs, il y a des gens qui séduisent d'autres, et qui séduisent aussi des faibles femmes, nous est-il dit. Et on voit Paul qui donne à Timothée la solution. Pour toi, verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Eh bien, les versets 10 à 17 soulignent là la nécessité de rester attaché à la vérité. Et même pour pouvoir supporter ces temps difficiles, ne pas tomber dans l'apostasie, l'exemple de Paul est déjà un encouragement à résister à l'apostasie, des versets 10 à 13. L'éducation que Timothée a reçue aussi, dès son enfance, doit l'amener à résister à l'apostasie. Et enfin, les Écritures, dans leur totalité, sont la meilleure garantie pour résister à l'apostasie. Vous voyez l'importance de la parole pour le croyant. Alors, quand on parle des saintes Écritures, et remarquez, Paul fait la description des derniers temps. Depuis que Jésus est remonté au ciel, nous sommes dans les derniers temps. Il en parle déjà dans sa génération, mais nous sommes dans les derniers temps. Et on peut voir, effectivement, qu'à certaines périodes, il y a des temps plus difficiles que d'autres. Et on sent qu'il y a une montée du mal de plus en plus. Et donc, Paul dit, mais toi, tu vois ça, je te dis ça, mais toi, verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets. Verset 14, 3, demeure dans les choses que tu as apprises. Et au chapitre 4, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Donc, ce 3-là est important. Le Seigneur nous parle aussi. Toi, mon enfant, fais le choix que je montre à Timothée. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit au verset 14, 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. On sait que Timothée avait appris les Saintes Écritures par le biais de sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs. Et il nous a dit au verset 15, dès ton enfance, et le mot grec désigne plus précisément le nourrisson, donc il faudrait plutôt dire la petite enfance. Donc très tôt, Timothée a reçu de ses parents une éducation biblique. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme outil? Tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres, c'était l'Ancien Testament. C'était les saintes écritures. Et ces saintes lettres pouvaient le rendre sage à salut, pouvaient l'aider à comprendre, tracer dans son cœur le chemin pour Jésus-Christ. Paul l'a pris avec lui et ça a été une suite après ses parents, Eunice et sa grand-mère. L'apôtre Paul aussi l'a pris et l'a formé. D'où l'importance pour les parents de ne pas se décourager devant l'instruction à donner à leurs enfants. C'est une bénédiction pour plus tard. On ne voit pas tout de suite les fruits peut-être, mais plus tard, ça va porter des fruits. Et on voit ensuite, les Écritures font référence à l'Ancien Testament. Et au verset 16, toute l'Écriture, pas une petite portion seulement, toute l'Écriture. Paul disait aux Éphésiens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Dans son contexte, dans son texte, tout. Eh bien, toute l'Écriture, qui renvoie d'abord à l'Ancien Testament, parce qu'à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas entièrement achevé, mais Pierre parle déjà des lettres de Paul comme faisant partie des Écritures. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Ce qui montre que l'Église primitive considérait déjà les textes apostoliques comme faisant autorité à l'égal de l'Ancien Testament. Donc, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les Juifs considéraient la parole de Dieu comme un cadeau, et ils en prenaient soin. Ils la transmettaient à leurs enfants dès la tendre enfance, Et les enfants, enfin, Paul conseille à Timothée de continuer. Pourtant, Timothée, c'est déjà un homme de Dieu. Il est peut-être timide, mais il a posé sa vie sur le solide fondement des Écritures. Donc, il ne sera pas emporté par l'apostasie s'il demeure ferme dans les Écritures. Donc, nous avons à lire l'Ancien Testament. On voit aussi que Matthieu veut nous montrer l'importance de l'Ancien Testament. Donc, on a vu comment Paul montre cette importance de l'Ancien Testament. On voit aussi que Matthieu est juste le début de Matthieu. Vous pouvez tourner les pages avec moi. Matthieu parle de la généalogie de Jésus-Christ au chapitre 1. Et finalement, l'Ancien Testament nous aide à mieux connaître Jésus-Christ. Si on met de côté l'Ancien Testament, on rate une bonne partie de ce qu'elle a à nous dire sur notre Seigneur et Sauveur. Parce que souvent, ce qu'on retient, c'est « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis sauvé » et ça s'arrête là. Mais notre vie rentre dans un plan bien plus vaste que ça, où Dieu a prévu de sauver tous les hommes, de restaurer la création, de se créer un peuple pour sa gloire. Et donc, Matthieu nous rappelle que l'importance de l'Ancien Testament, même pour connaître la vie de Jésus, pour connaître Jésus comme il le faut. Et il commence au verset 1, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Matthieu nous dit que si vous voulez connaître qui est Jésus-Christ, il faut que vous regardiez ce qui se passe avec David. Il faut que vous regardiez aussi ce qui se passe avec Abraham. On sait que Dieu avait promis à Abraham par sa postérité, la terre serait bénie. Et Dieu avait promis à David un fils qui régnerait éternellement. Et tout cela pointe vers Jésus-Christ. Donc, si on veut comprendre qui est Jésus, il ne faut pas commencer par Joseph ou Marie. Il faut regarder déjà ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui est dit de David et ce qui est dit d'Abraham. On voit aussi que les autres évangélistes ont la même démarche. Marc, par exemple, dès le début de son évangile, nous ramène par le biais de Malachie jusqu'à Ésaïe. Puis, par Ésaïe, il nous ramène au précurseur par excellence qui est Jean-Baptiste. On voit aussi que Luc fait remonter la généalogie du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Adam. Et comme Matthieu, il souligne la lignée davidique de Jésus. Enfin, Jean, c'est celui qui va peut-être le plus loin parce que son évangile commence par « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean nous dit que la parole n'était pas seulement avec Dieu, mais elle était aussi Dieu. Et quand on regarde donc, voilà, toujours cette tendance à nous ramener à l'Ancien Testament pour que nous puissions mieux comprendre qui est Jésus-Christ, et voir ce grand plan de Dieu qui a été annoncé déjà dès la Genèse pour l'humanité et pour la création entière. Et quand on regarde la fin de Matthieu, dans ce premier chapitre, il nous est parlé encore d'un autre prophète. C'était comme si Matthieu nous disait, ne regardez pas seulement à Abraham et à David pour mieux connaître Jésus-Christ. Regardez encore à Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il nous dit Ésaïe? C'est, il nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc vous voyez comment la parole de Dieu, l'Ancien Testament est riche pour nous apprendre à savoir qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. C'est pas un Jésus-Christ qu'on a accepté au tournant d'une porte. Non, c'est plus que ça. Et donc on se prive de la connaissance plus profonde de Dieu en laissant l'Ancien Testament de côté. J'aimerais terminer par Jésus-Christ lui-même. Que pensait Jésus-Christ de l'Ancien Testament? Alors il faut savoir que l'Ancien Testament tel que nous l'avons n'était pas ordonné comme ça. Donc c'est une traduction grecque de la Bible hébraïque. Et la Bible hébraïque était composée de 3 livres, la Torah, les prophètes et les écrits. Donc la Torah, c'était le Pentateuque, la loi de Moïse, les 5 premiers livres. Les prophètes, c'était la deuxième partie. Il y avait les premiers prophètes, Josué, Juge, Samuel, les rois. Les derniers prophètes, les prophètes majeurs, c'est-à-dire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Les prophètes mineurs, ou les petits prophètes, les 12 petits prophètes, d'Osée à Malachie. Et enfin, la troisième partie de la Bible hébraïque, telle que Jésus la connaissait, contenait les psaumes, c'était un gros volume, le livre le plus volumineux. Il y avait les psaumes, les proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. Et est-ce que Et Jésus nous parle de cette Bible qu'il connaissait. Quand on prenons par exemple Luc, pour voir que la Bible de Jésus était bien l'Ancien Testament que nous avons. Luc chapitre 24, pour voir comment Jésus lui-même, quand il veut encourager les disciples, quand il veut les instruire, eh bien, c'est l'Ancien Testament qu'il utilise. Luc chapitre 24. Vous vous rappelez, ces disciples d'Emmaüs découragés. Et au verset 44, au soir de sa résurrection. Alors, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, le Pentateuque, dans les prophètes, le deuxième livre, et dans les psaumes, c'est-à-dire les psaumes qui étaient le livre volumineux de la troisième partie de la Bible hébraïque, les écrits. Voilà la Bible en trois volets, tout l'Ancien Testament, voilà, c'était la Bible de Jésus-Christ. On voit aussi dans Marc, chapitre 1, verset 2, que l'ensemble des prophètes est rassemblé sous l'appellation Ésaïe le prophète, on ne va pas prendre la référence, c'est Marc, chapitre 1, verset 2. Et on peut prendre Matthieu, on va prendre Matthieu, chapitre 23, verset 35, on commence au verset 34, où le Seigneur passe en revue toute l'histoire du rejet de la parole de Dieu, depuis le sang d'Abel, le premier livre, dans le Pentateuque, la Genèse, jusqu'au sang de Zacharie, les chroniques, 2 chroniques 24, le dernier livre de la Bible tel que le Seigneur la connaissait, c'est-à-dire composé en trois parties, la Torah, les prophètes et les écrits. Et on lit dans Marc chapitre 23 à partir du verset 34, « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » On peut aussi retourner dans Luc chapitre 24 et voir que le Seigneur a utilisé les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour encourager ses disciples. Verset 25, Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne faillit-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » L'Ancien Testament, c'était la Bible de Jésus. C'était là où il trouvait les histoires qu'il a apprises petit, comme ceux qui vont à la classe du dimanche. C'était là qu'il a trouvé les chants qu'il entonnait. C'était là qu'il a pris les rouleaux qui étaient lus dans la synagogue, les jours du sabbat. C'était là aussi que Jésus discernait le plan de Dieu pour Israël et au travers d'Israël pour le monde. C'est là où Jésus trouvait les textes qui ont façonné sa personne, sa personnalité, sa mission qu'il venait accomplir. Et nous avons vu qu'il a utilisé le texte de l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples sa personne, le sens de sa vie, le sens de sa mort et de sa résurrection, non seulement pendant qu'il était encore vivant, mais aussi longuement après sa résurrection. Si Jésus a fait cela, pourquoi ne pourrions-nous pas suivre son exemple, lui qui est notre maître, lui qui est l'exemple qu'on doit suivre? Eh bien, lisons la Bible que Jésus a lue, lisons l'Ancien Testament, frères et sœurs. Et j'ai une pensée, et deux pensées qui me viennent avant de finir, et d'entonner un cantique, 151, qui parle de la parole de Dieu, je pense aux jeunes. Voilà. Quand on est jeune, on va se coucher tranquillement, on se couche sans les douleurs du corps, on se relève sans les douleurs du corps, on peut se contorsionner sans craindre de rester bloqué, on fait toutes sortes de cabrioles, on essaie de ne pas se faire mal, et si on tombe, on dit même pas mal, voilà. Les capacités cognitives sont au maximum, quand les capacités physiques, ça ne demande qu'à être utilisé. Et donc, voilà, comme Timothée, profitez de cette jeunesse pour lire l'Ancien Testament. Ça va, les résultats ne vont pas se voir peut-être tout de suite, mais c'est à ce moment-là que le cerveau est comme une éponge. Alors, il faut le nourrir avec les bonnes choses. Voilà. Donc, on est jeune, on a un potentiel inimaginable, il faut l'utiliser. Lisez l'Ancien Testament, peut-être que vous serez celui qui va traduire un missionnaire américain, peut-être que vous serez celui qui va traduire les ouvrages en anglais qu'on a bien besoin, peut-être que vous allez aider un chrétien, même s'il n'est pas anglais, un chrétien, parce que vous aurez connu la parole, vous avez connu le Seigneur, vous allez connaître sa personne et ses voies, vous allez encourager, vous serez les frères, les sœurs, vous serez aussi utiles dans votre foyer plus tard pour vos enfants, hein, pour les frères et sœurs dans l'église. Et la deuxième pensée, c'est les langues étrangères. Voilà. On dit, oh, mais pourquoi apprendre tous ces verbes irréguliers, ces formules idiomatiques, toutes ces règles de grammaire dans une langue étrangère, anglais, espagnol ou allemand? Mais là encore, notre cerveau, quand on est jeune, et c'est une éponge, il faut le nourrir. Et donc, ne perdez pas ce potentiel que Dieu vous donne. Et tous alors, lisons l'Ancien Testament. Prenons le temps, ces vacances, pour lire l'Ancien Testament. Par fraction, petit à petit, mais prenons le temps, lisons l'Ancien Testament. C'était la Bible du Seigneur Jésus, donc ne négligeons pas sa lecture. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous encourage lui-même dans cette lecture de l'Ancien Testament. Et bien, j'aimerais entonner ce cantique 151. On peut se tenir debout pour ce cantique.